France Culture, les matins d'été, Olivia Gesbert.
Et notre invité est le secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires, Julien de Normandie. Le Premier ministre, Édouard Philippe, va recevoir les membres du gouvernement les uns après les autres. A priori aussi, les secrétaires d'État, une sorte de bilan et perspective un an après. Julien de Normandie, vous êtes prêt?
Je l'espère.
On va faire une petite séance de
questions-réponses,
coaching, comme on dit aujourd'hui à la tête de l'État. Quelle est la boussole de votre action?
Je vous en remercie. Moi, je trouve ça très bien, ces entretiens.
Vous ne répondez pas à la question. Il ne va pas aimer ça, Édouard Philippe.
Non. Il faut toujours arriver en disant à son chef que c'est absolument génial, les initiatives qu'il
vrai.
Prend, évidemment. Très sérieusement, je trouve ça très bien, tout simplement, parce que, vous savez, il n'y a pas que dans les entreprises, que dans les associations, vous avez une organisation avec un chef d'orchestre et vous devez lui rendre des comptes. Un gouvernement, c'est pareil. Moi, je fais partie d'une équipe, j'ai un chef qui est le Premier ministre. Donc, il est tout à fait normal que ce Premier ministre, tous les ans, puisse me faire un entretien d'évaluation, un point d'étape, comme on dit.
C'est quand même peut-être d'abord devant les Français qu'il faut rendre des comptes aujourd'hui. Ils ne vous ont pas élu, vous, directement, Julien de Normandie, mais une majorité qui vous a porté là aussi au gouvernement.
Mais l'un n'empêche pas l'autre.
C'est
une chose de rendre des comptes devant les Français. Et évidemment, à la fin des fins, ce sont les Français qui jugeront notre action. Mais pour une bonne organisation, pour voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, parce qu'on peut toujours s'améliorer. Il y a des choses que nous avons bien faites, il y a d'autres choses que nous aurions pu très certainement mieux faire. Il faut toujours avoir cet esprit critique, dialoguer, et puis avoir dans une organisation un chef d'orchestre qui vous dit, ben voilà, moi je désire qu'on aille plutôt vers là. Je pense qu'il faut améliorer votre action dans tel et tel secteur. C'est l'objet de ces entretiens. Encore une fois, moi, je trouve ça à la fois très sain et très bien.
Donc, cette culture de l'évaluation, elle a du bon pour vous, Julien de Normandie. L'État, quand même, en mode start-up avec l'importation de ces méthodes du privé. À vous, l'ingénieur des eaux et forêts, ça vous fait pas bizarre?
Vous savez, moi, j'ai fait beaucoup d'État, comme on dit. C'est-à-dire que j'ai travaillé pendant 10 ans dans l'administration. Et il y a quelque chose qui me frappe profondément. C'est dans l'administration, on a la culture de la loi. On a la culture du règlement. On a la culture de cet État qu'on construit. Je trouve que nous n'avons pas assez, je le dis avec beaucoup d'humilité, parce que j'ai moi-même travaillé dans l'administration, cette culture de l'efficacité sur le terrain. C'est-à-dire, une fois qu'on a passé une loi, de se dire, est-ce que oui ou non, ça marche, d'aller au final dans l'exécution. Et cette exécution, c'est peut-être ça, le mode start-up, c'est peut-être ça, vous savez, le mode projet, comme on dit. Alors certes, moi je suis ingénieur, donc j'y suis profondément attaché, mais en tant également que personne ayant bossé pendant 10 ans dans l'administration, je peux vous dire que cette culture de l'exécution, avec un seul objectif, une seule boussole, pour reprendre vos propos, les résultats, c'est quelque chose qui change. Je vais vous donner là aussi un exemple. J'ai beaucoup travaillé pendant un an sur le numérique, donner accès partout sur les territoires à plus d'internet de très haute qualité et de téléphonie mobile. Pendant des années, les gouvernements successifs ont pris la main sur le cœur des engagements en se disant on va améliorer la situation. Moi, j'ai fait tout autre chose. J'ai passé un accord très important avec tous les opérateurs, mais c'était pas un accord de bonne foi, la main sur le cœur. C'était un accord contraignant. Et entre le moment où on se parle et fin 2020, c'est par exemple 10 000 communes, et je dis bien 10 000, qui vont passer de la 2G, 3G à la 4G, qui demain pourront écouter beaucoup plus facilement France Culture sur leur smartphone. Et je ne l'ai pas fait que pour France Culture, mais je serais ravi que cela puisse augmenter votre nombre d'auditeurs.
Et on a notamment l'écoute de cette nouvelle série estivale sur Saint-Simon, dont vous me disiez pendant la pub, génial, parce que vous êtes jeune, même pas à cadre encore, Julien de Normandie. Cette série sur Saint-Simon a écouté en direct tous les jours à midi, avoir raison avec Saint-Simon. Saint-Simon, Emmanuel Macron l'a cité. Est-ce que le macronisme pour vous est un nouveau saint-simonisme aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en garde de cette pensée assez complexe du comte de Saint-Simon, notamment dans son rapport à l'État?
C'est très compliqué de comme ça, en quelques secondes, de faire des parallélismes. Moi, je pense que, en tout cas, il y a une philosophie d'action qui se retrouve dans la lutte contre les rentes, dans la lutte contre les ordres établis, qui, profondément ancré dans notre projet, le projet présidentiel, que Saint-Simon avait pu pousser en son temps, de se dire cette assignation à résidence, cette société du dépassement, le fait que aujourd'hui en France, lorsque vous êtes dans une famille pauvre, né dans une famille pauvre, vous avez beaucoup de chance, malheureusement, de rester tout au long de votre vie dans cette pauvreté, parce que vous avez ces plafonds de verre, parce que vous avez ces rentes qui vous empêchent de rentrer là aussi vers d'autres horizons. Et donc moi, ce que je trouve, peut-être si je ne devais faire qu'un parallélisme, ce que je retrouve dans l'action que nous faisons et dans celle que Saint-Simon avait pu faire en son temps, c'est d'avoir cette obsession de lutter contre les rentes et de pouvoir donner des chances réelles, une égalité réelle, d'avoir la même égalité de destin au final. C'est ça, moi, qui guide mon action, c'est celle qui, j'en suis sûr, guide aussi l'action du président.
Alors, à propos d'égalité, il y a encore un point qui chiffonne bon nombre de vos interlocuteurs et bon nombre d'entre nous, tout simplement, dans ce projet de loi Élan, c'est la question du handicap. Jusqu'ici, 100% des logements neufs devaient être rendus accessibles aux personnes handicapées. 10% aujourd'hui, dans ce nouveau projet de loi. D'accessible, on est passé avec vous à adaptable. Écoutez Arnaud de Broca, secrétaire général de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés.
Logement évolutif, ça veut dire qu'on va pouvoir les transformer en faisant des travaux simples. Et je pense que ça peut apparaître pour beaucoup de personnes comme une bonne idée. Mais pour nous, c'est une fausse bonne idée qui va se traduire par finalement moins de possibilités pour les personnes handicapées d'avoir accès à un logement. Parce qu'on imagine mal un propriétaire qui va devoir choisir entre deux locataires, un handicapé qui va devoir faire des travaux, un autre qui ne va pas devoir faire des travaux. Forcément, le propriétaire va donner priorité à celui qui ne va pas faire de travaux. De même, on ne sait pas si ces logements, les logements accessibles, où est-ce qu'ils vont être placés. On peut penser que ça va être dans les logements les moins confortables ou le rez-de-chaussée en fond de cour, comme on peut dire. Et donc, le caractère évolutif, finalement, ne répond pas aux besoins des personnes handicapées parce qu'il va restreindre la possibilité pour elles d'accéder à un logement.
Cette mesure, Julien de Normandie, elle semble tellement restrictive, en effet, et tellement incompréhensible. C'est un recul, vous ne pouvez pas dire autre chose.
Je vais dire le contraire, mais vous savez, cette notion même de logement évolutif, ce n'est pas moi qui l'ai trouvée, ce sont les associations de personnes en situation de handicap, notamment l'une d'entre elles, l'APF. Le terme même vient de cette association.
Donc au-delà du terme.
Non mais, parce que quelle est l'idée derrière tout ça ? En fait, un logement doit vous accompagner tout au long de votre vie. Moi, par exemple, j'ai 4 enfants, j'ai la chance d'avoir une famille en bonne santé. Est-ce que dans ce cas-là, il est logique, si demain je vais habiter dans un logement neuf, que parfois la salle de bain soit plus grande ou très grande par rapport à la chambre de mes enfants ? Évidemment non. Évidemment non. En revanche, j'ai des proches qui sont en situation de handicap. Ces proches doivent pouvoir venir me voir, me rendre visite dans mon appartement. Ce qui veut dire qu'un logement évolutif sera un logement où la salle de bain sera de taille plus réduite. En revanche, les toilettes, le salon seront accessibles aux personnes en situation de handicap. Et puis, si un jour j'ai un accident de la vie, si un jour, et évidemment, je vieillis et je deviens en situation à mobilité réduite, à ce moment-là, il faut que je puisse transformer sans aucun effort mon appartement. Très concrètement, ça veut dire, par exemple, la paroi entre ma salle de bain et mes toilettes, que je puisse la casser très facilement pour pouvoir faire en sorte que demain, ma pièce d'eau devienne totalement accessible à mes besoins. C'est ça le sens de ce logement.
Donc
partir des besoins des Français
des
et en aucun
comme,
cas faire une régression.
Des villes, Julien de Normandie, comme Paris et Nantes, qui ont déjà annoncé leur intention d'entrer en rébellion par rapport à cette mesure, en dissidence, et d'imposer à leurs bailleurs sociaux de continuer à construire 100% de logements neufs qui seraient accessibles et de ne pas respecter le quota de 10% que vous avez pour l'instant évalué et fixé. Vous allez tenter de les faire rentrer dans le rang ?
Vous savez, moi, ma philosophie d'action, encore une fois, je vous l'ai exprimé tout à l'heure, c'est la liberté des acteurs. C'est-à-dire que moi, je fixe un cadre, les acteurs s'en saisissent ou ne s'en saisissent pas. Je veux juste qu'elles le fassent dans un souci unique qui est qu'est-ce qui est bon et quel est le meilleur pour les Français et pas du tout dans quelconque posture politique ici ou là.
Donc là, vous proposez les communes disposent.
Mais moi, je fixe un cadre. D'accord. Et je fais confiance aux acteurs locaux pour se saisir du cadre. Je pense que c'est ça le vrai rôle d'un État. C'est ça le vrai rôle d'un pouvoir public qui fixe des règles. Les règles, elles doivent être importantes, très claires, déterminées. Et ensuite, chacun évolue comme bon lui semble dans le cadre de
mais là, la règle, j'ai pas compris, pardon, elle est de 100% ou de 10%?
La règle,
il y a une obligation pour Paris et Nantes de se soumettre à cette règle des 10%?
La loi, elle dit, demain, votre obligation sera faire de 100% évolutif, dont 10% de totalement accessible dès le début. Si certains ne veulent pas rentrer dans cette philosophie d'action qui est que le logement accompagne l'individu tout au long de sa vie, c'est leur plus grand droit. Moi, j'ai encore une fois une seule boussole, ce sont les Français.
C'est quoi, Julien de Normandie, votre coin de littoral à vous ?
Je n'ai pas entendu, pardon.
Votre coin de littoral à vous ?
C'est moi, je suis très attaché à l'Atlantique. J'ai profondément l'océan, les marées et ces paysages qui varient du jour au lendemain.
Alors, ville, littoral, la question du logement et de l'aménagement urbain de la capitale, vue par deux architectes, c'était en 62 dans le joli mai de Chris Parker.
Les solutions actuelles, leur côté fastidieux, leur côté monotone, inhumain parfois, oui. Pénible et moche et tout ça, ça vient du fait qu'on ne pense pas du tout à ce que ça soit autre chose, que voilà, le but essentiel, ce n'est aucune de ces considérations-là, le but essentiel, c'est du fric.
C'est du fric. C'est
et c'est pour ça que les autres techniques, une autre technique est possible, il faut repenser une autre technique, etc. Mais l'essentiel, c'est de savoir dans quel autre cadre elle peut se pratiquer, cette technique. Elle ne peut pas se pratiquer dans le cadre où un terrain coûte 150 000 francs le mètre carré. C'est pas possible, ça se... Quand un terrain coûte 150 000 francs le mètre carré, il faut faire des gratte-ciels. Des gratte-ciels, ça peut être très beau, on en parlait tout à l'heure, mais à Paris, ça peut aussi être très beau à Paris. Mais les multiplier comme on veut le faire, par exemple, dans le 15e, c'est particulièrement ridicule.
Extrait de Joli Mai de Chris Marker et annoté à l'agenda culturel la très belle et grande rétrospective Chris Marker, les 7 vies d'un cinéaste, à voir si vous passez par Paris jusqu'au 29 juillet à la Cinémathèque. Julien de Normandie, beauté, laideur, votre coin de littoral à vous, est-ce qu'il est bétonné ou est-ce qu'il respire ?
Zahi, moi je suis profondément attaché au littoral. Je suis, vous l'avez dit, ingénieur des eaux et forêts. J'ai, dès mon plus jeune âge, décidé de m'orienter sur l'aménagement du territoire et l'aménagement de tout notre territoire, y compris le littoral. Le sens de votre question est, est-ce que par notre action, nous allons
préserver ou pas le littoral est massacré par des constructions.
Moi, je suis un profond défenseur de notre littoral, un profond défenseur. Après, il n'en reste pas moins que tout au long des dernières années, nous avons passé un certain nombre de lois. Et il y a une loi qui s'appelle la loi littorale. Il faut garder toute son ambition. Mais ça n'empêche pas, si vous gardez toute son ambition, de vous demander si ici ou là, on ne peut pas corriger certains points. Dans la loi logement, on corrige un point particulier, qui est de se dire que aujourd'hui, dans un village, je parle bien d'une zone dense, un village, je ne suis pas au bord de la rive, dans un village, quand vous avez deux maisons et au milieu de ces deux maisons un terrain vide, ce qu'on appelle une dent creuse, vous n'avez plus la possibilité de construire. Et donc, la question est, est-ce qu'il n'est pas légitime dans cette zone dense, dans ce village soumis à la loi littorale, quand vous avez une telle dent creuse, un terrain vague entre deux habitations, d'y mettre une habitation? Vous voyez, c'est
voilà,
ça.
On peut aussi entendre l'argument contraire, celui des associations de défense de l'environnement, qui estiment qu'il faut aussi pouvoir laisser un peu respirer.
Oui, moi j'en suis un profond défenseur, encore une fois, donc pas de caricature dessus.
Merci beaucoup à vous, Julien de Normandie, d'être passé dans le studio de France Culture pour ces matins.